Chapitre 20. Alors que la nuit tombait sur l'île Dakar, Nietzsche songeait à la rencontre hautement frustrante avec Outrous. En même temps, il se demandait comment tirer parti de la Slif découverte par Nathan et Elsa. D'une manière ou d'une autre, elle entendait bien sauver l'île Dakar. Depuis 2 jours, l'ennemi n'avait pas bronché, mais sa présence restait intimidante. Pour assimiler ce qu'il venait d'apprendre, Outrous aurait besoin de temps. Avec un peu de chance, il finirait par comprendre que son comportement n'avait aucun sens. Face à un siège, l'île Dakar pouvait tenir des années, des décennies, voire des siècles. Si elle jugeait prudent de rester dans l'expectative pour le moment, la magicienne doutait que le général renoncerait à son projet. Son devoir, il l'accomplissait comme un homme de pierre. Nietzsche le comprenait parce qu'elle éprouvait la même détermination. Si un message lui apprenait demain la mort de Richard, ou si elle se réveillait après des siècles de sommeil, abandonnerait-elle pour autant l'empire d'Aran? Jamais, au grand jamais. Avec Nathan, ils avaient semé le doute dans l'esprit d'Outrous, mais ça ne suffirait pas. Après avoir conquis l'ancien monde au nom de Crocs de Fer, le général ne fléchirait pas. Cela dit, loin d'être idiot, il demanderait sans doute à revoir les deux émissaires. De son point d'observation élevé près de la tour du pouvoir, Nietzsche contemplait la ville qui s'étendait à ses pieds. Les soldats ne frappaient plus contre le mur d'enceinte, c'était déjà ça, mais ce silence n'apportait pas la paix à la cité. Pendant leur incursion dans le camp ennemi, Nietzsche et Nathan s'étaient fiés à la parole du légendaire général. Mais que préparait-il à présent? Comment pensait-il percer les défenses de la ville, puis affronter les nombreux détenteurs du don qui se dresseraient devant lui? Alors que la magicienne levait les yeux sur le ciel étoilé, Nathan sortit de la villa. En chemise blanche à jabot, pantalon noir et bottes sombres, il ne portait pas sa tunique brodée de fils d'or. En revanche, il arborait sa belle épée, une façon de rappeler qu'être un aventurier lui plaisait presque autant que son statut de sorcier.
« Dehors pour admirer les étoiles, magicienne. Elles sont différentes, mais peu à peu nous nous habituerons à elles. »
Depuis le changement stellaire, Nietzsche n'avait guère eu le temps de s'appesantir sur les constellations.
« Si Outrous est aussi honorable que le prétend l'histoire, j'espère trouver un moyen de préserver l'île Dakar tout en lui permettant de sauver la face. S'il nous aide, nous trouverons une issue. »
Les yeux de Nathan pétillèrent de malice.
« Ton optimisme te va aussi bien que ta robe noire. Un de ces jours, tu généreras un arc-en-ciel à partir de la tour du pouvoir. »
Consciente que le vieil homme la taquinait, Nietzsche ne trouva pas ça drôle.
« J'étais une sœur de l'obscurité au service du gardien. Puis j'ai combattu pour Jagang. Bref, j'ai fait assez de mal au monde avant que Richard me montre la valeur de la loyauté, de l'amitié et de la solidarité. Il m'a ouvert les yeux sur la philosophie de l'ordre impérial, ce poison que je contribuais à répandre autour de moi. Richard m'a enseigné l'espoir, une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. »
Nietzsche s'engagea sur le chemin qui menait à l'endroit où se dressait naguère la pyramide sacrificielle, le cœur du pouvoir à l'île Dakar. Afin de générer le nouveau linceul de l'éternité, des centaines d'esclaves auraient dû être massacrés, mais Nietzsche, Nathan et les rebelles avaient vaincu la Sovréna et démoli le maléfique monument. La magicienne se sentait attirée vers ce lieu. S'il était le cœur du pouvoir, pourrait-elle s'en servir contre Outrous? Nathan devina sans peine les intentions de sa compagne.
Elsa et moi, nous avons fouillé et refouillé ces ruines sans rien trouver d'utile.
Nietzsche ne ralentit pas.
Il faut continuer à chercher. Vous avez bien déniché le puits de la Slif, qui sait ce que cache encore l'île Dakar.
Avec Elsa, nous avons ratissé le terrain, sans rien découvrir de plus. À part un tonneau de pommes ratatiné depuis des siècles, quelques vieux poinçons et des morceaux de cuir durs comme du fer dans l'ancienne boutique d'un cordonnier. Rien qui puisse empêcher Outrous de dormir sur ses deux oreilles.
Entendant des pas précipités dans son dos, Nietzsche se retourna et reconnut Bannon, ses longs cheveux volant au vent.
« Où allez-vous, les amis ? »
lança-t-il en souriant.
« Si c'est dangereux, je vous accompagne. »
Nathan eut un sourire paternel.
« On est assez grand pour se passer de toi, mon garçon. »
Le souffle court, Bannon semblait très excité.
« Je sais, mais je suis allé voir Brock et Jed. Parole de Bannon, je ne le leur ai pas envoyé dire. »
Nietzsche fit la moue alors qu'elle atteignit la base de la défunte pyramide.
Elle n'avait jamais apprécié les deux jeunes gens et encore moins Amos. Ces minables s'étaient moqués de Bannon, trop avide d'amitié pour s'en apercevoir. Depuis qu'elle avait tiré le jeune escrimeur de Saldra dans une ruelle de Tanimura, la magicienne se sentait responsable de lui. Pour être franche, elle n'aurait pas parié sa chemise sur sa longévité, mais il avait réussi à la surprendre et même à se montrer utile au cours de leurs aventures. À ta place, je les aurais tués tous les deux, mais chacun mène ses batailles à sa façon. Laissez-moi vous accompagner, plaida Bannon. Je peux regarder les choses avec un œil neuf. Nietzsche continua d'avancer dans le champ de ruines sans faire signe au jeune homme de déguerpir. Tu as mérité de venir. Après t'être bien battu, tu nous as aidés à libérer des esclaves. Bannon s'empourpra. Tu n'es pas prodigue de compliments, magicienne. Merci de celui-là. C'est une constatation, pas une flatterie. Nathan tapa sur l'épaule de son disciple.
Maintenant, il va falloir sauver la ville. Toutes les suggestions sont bienvenues.
Les trois amis continuèrent leur recherche dans les ruines. Je me demande combien de gens ont été sacrifiés ici, à l'époque où le linceul était activé. Pour le renforcer, combien de sang leur fallait-il? Je n'en sais rien, souffla Nietzsche très concentré. Elle ferma les yeux, se tut un moment, puis secoua la tête. Il ne reste pas de magie. Nathan approuva du chef. Soudain, la magicienne capta une sorte de picotement à l'intérieur d'elle-même, comme si quelque chose la sondait, remontant le long de sa colonne vertébrale pour atteindre sa nuque. Sa tête lui fit mal et son cuir chevelu sembla vouloir se déchirer. Minute, il y a quelque chose. C'est très puissant. Inquiète, Nietzsche regarda autour d'elle. Crépitant d'énergie, ses cheveux blonds voltaient autour d'elle. Montant une marche de plus sur ce qui restait de l'escalier, elle inclina la tête en arrière. Dans le ciel, les étoiles brillaient intensément et les lumières de la ville faisaient penser à des centaines de milliers d'yeux. Quelque chose clochait. Nathan plissa le front. Lui aussi, il sentait une anomalie.
« Chère magicienne, tu es sûre que ce n'est pas toi qui invoques cette puissance ?»«
Pas volontairement, mais elle vient à moi. » Nietzsche saisit une mèche blonde qui s'enroula autour de ses doigts. On eût dit une créature vivante. Stupéfaite, la magicienne vit que ses cheveux grossissaient dans sa main. On eût dit des algues devenues folles, et tout autour de sa tête, une foisonnante crinière se formait. Quand elle essaya de la saisir, les mèches se dérobèrent comme des serpents ou des tentacules. Le phénomène continua, incontrôlable. Malgré ses efforts, Nietzsche sentit que ses cheveux l'emprisonnaient inexorablement. Solide au poing, Bannon cria. « Magicienne, que pouvons-nous faire ?» Nietzsche tira sur ses mèches blondes qui tentaient à présent de l'étrangler. De plus en plus longues, d'autres s'enroulaient autour de son torse pour lui immobiliser les bras. Si elle réussissait, les étrangleuses n'auraient aucun mal à parachever leur œuvre. La respiration de plus en plus difficile, Nietzsche dégaina un de ses couteaux de la main droite et coupa une longue mèche qu'elle jeta aussitôt sur le sol. Contre-attaquant, des cheveux s'enroulèrent autour de son poignet. Nathan approcha, épée au clair.
« Tes cheveux sont magnifiques, magicienne, mais il va falloir les sacrifier !»
Le vieux sorcier coupa à son tour une mèche qui continua à onduler comme un serpent lorsqu'elle fut tombée dans la poussière. Bannon tranchait aussi, délicatement pour ne pas blesser son ami. Comme des reptiles, les cheveux se dardèrent défensivement. Quand Nietzsche cria, un de ses serpents s'introduit dans sa gorge. Craignant d'étouffer, elle mordit jusqu'à ce qu'elle ait sectionné cet agresseur puis recracha le reste. Avec son couteau, elle dégagea son poignet gauche, mais d'autres cheveux s'enroulèrent autour de sa taille, tirèrent et la déséquilibrèrent. Une fois sur le sol, elle continua à trancher frénétiquement. Rien n'y fit. Au contraire, des cheveux réussirent à s'enrouler autour du bras droit de Bannon, qui se débattit mais ne parvint pas à se dégager. De plus en plus audacieuse, des mèches attaquèrent sa jambe gauche et le firent tomber aussi.
« Au secours, douce mère la mère, à l'aide !»
Frappant de taille, Nathan parvint à dégager un peu son jeune compagnon. Toujours active, Nietzsche coupait mèche après mèche. Même détaché de sa tête, les cheveux revenaient à l'assaut. Vicieux, d'autres tentaient de faire tomber Nathan. Coupés ou non, les cheveux de Nietzsche continuaient à s'enrouler autour d'elle pour l'étouffer. Épuisée, la magicienne comprit qu'elle ne résisterait plus longtemps. Il fallait réagir autrement. Par exemple, en renvoyant le sort à son expéditeur, ou plutôt à son expéditrice.
presque étouffé par les tentacules blonds, Nietzsche invoqua son don, puis fit jaillir des flammes qui crépitèrent autour de son corps. Des dizaines de mèches brûlèrent, mais elles repoussèrent la seconde d'après. Les bras presque immobilisés, la magicienne se concentra. Oui, elle sentait la source de l'attaque. Une magie qui frappait directement son aura, mais visait avant tout ses cheveux. Cet assaut devait avoir une faiblesse. Quelque chose qui pourrait... Oui, voilà, il y était. Ça ne venait pas de toute sa chevelure, mais d'une seule mèche, et même d'un seul cheveu. Parmi des centaines de milliers d'autres, il servait de focale à la magie adverse. Les tentacules serrèrent plus fort, comprimant les côtes de leur proie et coupant la circulation du sang dans ses jambes. Pour mieux se concentrer, Nietzsche ne luttait plus, c'était sa seule chance. De très loin, elle entendit Nathan lui crier de ne pas abandonner, mais elle n'avait aucune intention de renoncer au combat. Elle envoya ses pensées à l'extérieur de son corps, comme le lui avaient appris les sœurs. Suivant le mouvement, son Han se libéra et trouva très vite le lien magique qui la tenait prisonnière comme la ligne et l'hameçon d'un pêcheur. Ce lien, elle devait le briser. Oubliant qu'elle ne pouvait presque plus respirer et que ses côtes craquaient sinistrement, elle lutta pour bouger les doigts et partir en quête du cheveu qui la tuait lentement. Se fiant à la ligne lumineuse qu'elle voyait mentalement, elle trouva enfin un cheveu cassé. L'autre bout devait être entre les mains de la magicienne ennemie. Non, des magiciennes, les jumelles. Contrairement aux autres, ce cheveu n'avait pas poussé démesurément. Étant sa focale, il n'était pas affecté par le sortilège. Dans l'incapacité de l'isoler, Nietzsche enroula autour de ses doigts une mèche et tira de toutes ses forces, s'arrachant une plaque de cuir chevelu. La focale neutralisée, la magie meurtrière devint inerte comme une corde qu'on coupe brusquement. Les cheveux fous relâchèrent leur pression, et la poitrine de leur proie se souleva de nouveau quand de l'air emplit ses poumons. Nietzsche paria qu'elle avait plusieurs côtes cassées. Comprimée par les mèches tueuses, sa gorge lui faisait atrocement mal. En criant son nom, Nathan et Bannon continuèrent à la libérer du cocon qui avait failli la tuer.
« Merci, »
dit-elle quand ils eurent terminé. Bannon élimina les mèches qui restaient enroulées autour de lui et les jeta au loin. Puis il repoussa ses cheveux en arrière, avec méfiance, comme s'il redoutait qu'il lui joue un mauvais tour.
« Que s'est-il passé, magicienne? Un sort encore présent dans les ruines? Non. »
Lentement, Nietzsche tourna la tête vers Nathan.
« Dans ce cas, c'était quoi ?»
demanda le vieil homme d'un ton las. Ce combat l'avait vidé de ses forces.
« Tu le sais très bien, sorcier. Le général Outros refuse de négocier. » Du coup, ces magiciennes ont tenté de m'assassiner. Il n'y aura pas de solution raisonnable.
Se relevant, Nietzsche épousseta sa robe noire qui disparaissait presque sous les entrelacs de cheveux blonds.
Et maintenant, je suis folle de rage.